Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Alors au programme, tout simplement des livres, des romans noirs qu'on a appréciés, dont on a envie de vous parler. Et puis on va quand même commencer par...
Et un peu de musique aussi.
Un peu de musique bien évidemment. Et puis nous allons commencer par parler de la manifestation polar, qui est en gros je pense la plus proche des Alpes-Maritimes, puisque le dernier week-end du mois de mai aura lieu le Salon du Polar du Lavandou. Donc, vous l'aurez compris, ça se passe dans le village du Lavandou, dans le Var. Et donc, cela s'étale sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, avec le maximum des auteurs présents, plus d'une vingtaine, les samedis et dimanches, où vous pouvez évidemment les rencontrer, discuter avec eux, et évidemment découvrir leurs romans, les acheter et les faire dédicacer. Beaucoup d'animations, il y a un programme très très riche, des conférences, des rencontres polar et cinéma, mais aussi des tables rondes, avec quelque chose qui est assez exceptionnel, puisque eh bien un auteur qui s'appelle Gigi Arnaud, qui est un auteur qui a un âge certain, on peut le dire, et qui a commis des dizaines et des dizaines de romans noirs, et même dans d'autres genres.
Il a écrit de la SF aussi.
Voilà, c'est un auteur qu'on n'a plus beaucoup l'occasion de rencontrer, donc il sera là dimanche 29 mai, donc je vérifie l'heure, oui, donc c'est à 11h, voilà, et puis d'autres tables rondes avec par exemple Le Vrai du Faux, Daniel Thierry, une vraie commissaire qui a écrit les scénarios de Quai numéro 1, et l'actrice qui a incarné le rôle de la commissaire, Sophie Duez. Voilà, des auteurs comme Romain Slocombe, Jean-Hugo Pell, Pascal Dessin, Marcus Mal, Daniel Thierry, je viens de le dire, Yann Manouk, Franck Bouys, dont on vous a parlé très récemment. Voilà, programme complet, Salon du Polar. Il suffit de taper dans Google, Salon du Polar 83, voilà, et vous tombez sur le site avec l'ensemble du programme. Mais vous pouvez aussi aller bientôt sur le site de l'association 813, ou réécouter cette émission pour avoir...
Sur le site de Ondes Noires, il y aura un lien, bien sûr, après la diffusion de cette émission.
Voilà. Nous allons commencer par un livre que j'ai adoré. Alors là, vraiment, de par sa construction, de par l'histoire, roman noir, très noir, mais petite pépite, c'est un livre d'un auteur qui... C'est le premier roman, J. David Osborne. Alors, je dois faire un mea culpa. J'ai pas cherché ce que c'était l'initial du J, justement. Ah, donc, on l'appellera J. David Osborne. Donc, Monsieur Osborne. Le livre s'appelle, la traduction, Que la mort vienne sur moi. C'est un roman qui est paru récemment chez Rivage Thriller, aux éditions Payot Rivage. Et c'est traduit excellemment bien parce que c'est...
Ça n'a pas dû être forcément facile.
C'est une traduction très subtile. C'est traduit par Pierre Bondil. Dans ce livre, on va rencontrer deux frères, Arlo et Sepp, blancs. L'un est honnête, l'autre pas. Arlo a un métier, une femme, Jen. Sepp sort de prison et s'enfonce dans des trafics. On va rencontrer deux autres frères, Danny et Thomas Ames, noirs. L'un est un homme de main, tueur à gages, videur, sans scrupules. Thomas fait des études. Thomas disparaît. Danny part à sa recherche. Les deux couples de frères, là les quatre, vivent dans un trou perdu, une toute petite ville perdue de l'Oklahoma. Là où s'assointe la misère, la désespérance et donc le délit en tout genre. D'un côté, Arlo et Sepp vont tomber sur un cadavre en allant à la pêche. De l'autre, Danny cherche son frère. Lui part à la pêche aux informations. Ils ne pourront que se croiser. Et le lecteur suivra ces quatre hommes, moitié humains, moitié déchets. Tour à tour victimes, tour à tour bourreaux. un pied déjà dans la tombe. Sauf un des personnages, peut-être, je ne vous en dis pas plus, Arlo, qui peut être sauvé par Jen, sa femme, et qui s'évade régulièrement de sa vie sordide grâce à la peinture. Et justement, j'emploie le mot peinture, mais ce roman, c'est une fresque, une peinture terrible, mais terriblement réaliste, de la mairie des marges, de tous ceux qui sont du mauvais côté, de ceux que la nation américaine a envoyés sauver le monde dans des guerres iniques. Je cite l'auteur, « un énorme monstre qui dévore les gens, et quand il les vomit, ils sont différents ». C'est un roman qui parle de tous ceux qui ont été jetés à la rue, ou jetés, j'emploie encore le mot, dans des mobile homes complètement délabrés. Des hommes et des femmes dont le grand luxe est de voyager, mais voyager sur Google Earth. Ou bien, ascension sociale suprême, aller à la ville acheter des meubles chez Ikea. Et Osborne, pour décrire ses vies météores, ses destins brisés d'avance, il utilise des fulgurances, des flashs, des scènes courtes qui s'enchaînent à toute vitesse. Paragraphes très courts, minimalistes, ainsi que les chapitres. En gros, de l'instant art littéraire. Scènes cocasses, scènes violentes, voire tendres. Quand, par exemple, la petite frappe qui est Sepp s'occupe d'un petit chiot qu'il a recueilli. D'un côté, il peut vendre de l'engrais comme drogue à ses amis et clients, mais il câline Chapis, c'est le nom du petit chiot, comme un gamin. Comme dans tout bon roman noir, les frontières entre le bien et le mal sont floues, très floues. Certes, quelques salauds culminent, mais dans l'environnement qui est le leur, la cruauté est de mise pour survivre. Marche ou crève, deal ou meurt, descendre ou être descendu. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Comme je l'ai dit au début, c'est un premier roman, et vraiment un premier roman sans faute, pour cet écrivain, qui, nous l'apprenons sur la quatrième de couverture, est aussi éditeur. Sans faute sur la forme, sans faute sur le fond, le style, comme une urgence à nous raconter ses destins, les histoires, autant de shortcuts illuminés. Et constamment, une humanité dans le regard de l'écrivain pour ces damnés de la Terre qui n'attendent plus aucune rédemption. Un roman à découvrir absolument. Alors, voilà, je conseille d'insister un peu parce qu'au début de la lecture, ça déroute un peu, ça. Mais vraiment, c'est un livre qui se mérite et c'est un très très bon roman. Je rappelle, J. David Osborne, Que la mort vienne sur moi, collection Rivage Thriller. Je rappelle aussi le nom du traducteur, Pierre Bondil. On va passer un petit peu de morceau
de musique. Un petit peu de musique, donc pour illustrer ce roman.
Oui, c'était pas facile. On a discuté un moment de savoir quel style de musique pourrait aller avec ces destins qui vont dans le mur.
Et donc, on a choisi du country metal, ce qui est quand même relativement rare. Alors, le groupe s'appelle Rebel Meets Rebel, donc ça peut correspondre un peu aussi au personnage
du
roman.
Oui, je pense que ça pourrait être la bande-son, si on peut dire.
Voilà, c'est un groupe qui a été formé par le chanteur de country, c'est un songwriter américain plus que country, qui s'appelle David Alan Coe, et des membres du groupe de metal texan Pantera. Et ça la donne donc Rebel Meets Rebel, et le morceau qu'on va écouter s'appelle aussi Rebels Meets Rebel.
J'espère que tu t'es entraîné sur Rebels.
Rebels, ouais.
Ouais, c'est l'accent. Ah ben je dis rien parce que j'ai pas dit non plus très bien le nom de l'auteur. Voilà.
Allez, c'est parti.
Allez, on écoute.
Après cette country metal un peu spécial quand même, on n'en écoutera pas souvent dans cette émission, on va parler d'un roman de Frédéric Andrée qui s'appelle Badland, qui est publié aux éditions Albin Michel. Je ne donne pas le nom du traducteur car ce Badland est écrit en français. Frédéric Andrée nous amène dans ce roman, il va nous faire voyager entre le Montana et Las Vegas. On y retrouve les deux personnages principaux de son premier roman, Riche à en mourir, paru aux éditions Albin Michel en 2014. Mais on peut très bien lire ce Badland sans avoir lu le précédent. Il nous remet très vite dans le contexte, et sinon, on apprend au fur et à mesure ce qu'on aurait besoin de savoir. Les personnages principaux, donc, sont Nicolas Donac, c'est un ex-journaliste, un ex-charpentier dans les riches quartiers de San Francisco, Sausalito pour être précis, mais c'est aussi un ex-militant, un ex-activiste. De gauche, évidemment, ça s'implique surtout pour les États-Unis. Et il y a surtout ce deuxième personnage, c'est la belle indienne Blackfoot, Tina, qui est, elle, une ex-bimbo, une ex-veuve d'un richissime homme d'affaires, et donc si elle est veuve, elle est devenue richissime elle-même désormais. Et c'est surtout, au début, une femme enceinte, comme une héroïne des frères Cohen. Ce qui ne l'empêchera pas, car elle a un foutu...
Allusion à Fargo, n'est-ce pas ?
Voilà, ce qui ne l'empêchera pas, car elle a un foutu caractère... Ce qui ne l'empêchera pas, bien qu'à une semaine du terme de sa grossesse, de se rendre avec Nicolas, depuis le Montana jusqu'à Vegas, dans un 4x4 un peu pourri, pour assister à une compétition de rodéo, auquel participe un jeune indien de la tribu.
Elle va quand même pas participer elle-même.
Non, heureusement. Elle ne restera pas longtemps à Vegas, car elle veut rentrer au Montana pour accoucher en terre indienne. Et aussi, et surtout peut-être, pour empêcher la vente d'un terrain appartenant à sa nation à de peu scrupuleux investisseurs. Pléonasme, bien évident. Mais un attentat lors du rodéo va déjouer ce plan d'avenir bien calculé, où ils devaient rentrer ensemble, etc. Et là, va s'en suivre un formidable thriller technologique, ou une formidable parodie de thriller technologique, car Frédéric Andrée utilise tous les codes, les astuces, les passages obligés de ce genre de roman, mais pour les tordre à sa façon. C'était déjà un peu le cas dans le premier, et là, c'est encore mieux réussi. Et puis, c'est aussi un thriller technologique western. Je vous l'ai déjà dit, il y a du rodéo. Il va y avoir aussi de longues chevauchées à cheval, donc dans le Montana, mais aussi en 4x4 et en quad. Mais tout ça, ça se passe dans le Montana en hiver, donc c'est par moins 35 degrés. On n'est plus dans l'ambiance de Crumley dont on vous parlait dans la précédente émission. C'est aussi un thriller, disons, un peu ethnologique, car on en apprend pas mal sur la vie des Indiens, plutôt sur les conditions de vie des Indiens dans ces contrées, qui n'ont pas été bien mieux que dans les autres régions des États-Unis. Nicolas Denac, le héros là, de Frédéric Andrée, est peut-être un petit peu moins fort que Lisbeth Salander, celle de l'héroïne de Millennium. Mais lui, en plus d'être curieux, tenace et observateur, il a tout aussi sa technique informatique. Car il va résoudre et trouver les commanditaires de cet attentat, je peux le révéler, c'est pas vraiment un scoop, il va trouver les commanditaires de cet attentat, quasiment, il va résoudre toute l'affaire, en fait, quasiment, avec l'aide d'un simple iPhone et d'un simple iPad mini. Très très joli placement de produit, comme on dit au cinéma. Et en plus, il va faire tout ça, en grande partie, dans une région perdue, de la vallée du Mont Murray, c'est une région perdue du Montana.
Méconnectée.
Méconnectée. En tous les cas, il réussit à se connecter, parce qu'il est super fort. Ce roman est certes un divertissement fort bien foutu, comme je vous l'ai fait comprendre, un divertissement haletant, comme il est bon ton de dire. Mais c'est aussi, et aussi, surtout, une belle réflexion sur notre monde actuel, où la technologie a envahi toutes les contrées. Et aussi une réflexion sur le terrorisme, puisqu'il y a un attentat terroriste. Ou plus précisément, en fait, que sur le terrorisme, sur le traitement du terrorisme par les grands médias d'information, qui se repaissent de tels événements pour faire de l'audience et du fric, sans le moins d'intérêt pour l'événement lui-même, ni pour les vrais responsables. Ils n'hésitent pas à accuser sans la moindre preuve, n'hésitant pas à tirer des conclusions de faits que l'on pourrait dire parcellaires. Et on a eu récemment la preuve, hélas, que ce n'était pas vrai qu'aux États-Unis où se situe l'action de ce roman. Pour finir, il faudrait revenir à ce que je disais au début, ce roman vaut par les deux personnages principaux, et aussi par un troisième, la petite agente du FBI. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment pourquoi je dis petite.
C'est affectueux.
Voilà, c'est affectueux, exactement. On a l'impression qu'elle est comme ça, mais elle est dynamique. Hein. Elle était déjà dans le premier, et quelque chose me dit qu'on pourrait bien les retrouver, tous ces trois personnages, et surtout Tina, parce que cette indienne au séminole blanc, le séminole, je rappelle, c'est un chapeau. Cette indienne-là, c'est un personnage qu'un auteur qui l'a créé ne peut pas laisser tomber vraiment aussi facilement.
Et le lecteur non plus,
apparemment. Et le lecteur non plus.
Donc, voilà, on va peut-être rappeler chez Albin Michel.
Chez Albin Michel, Badland de Frédéric Andrée.
Voilà, on se retrouve dans quelques minutes.